Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, spécial Stephen King. Aujourd'hui, il sort un nouveau livre, mais avec quatre histoires dedans. On en parle dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, bien sûr, et donc du Stephen King, Marche ou crève. Nous visiterons la bibliothèque de Jacques Expert. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, chez Stanislas Rigaud aujourd'hui. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse du Stephen King. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Si ça saigne, c'est le titre du nouveau Stephen King chez Albin Michel. On dit Stephen King en fait, un titre très kingien. Si ça saigne, quatre petits romans ou grosses nouvelles. On appelle ça des novellas, si on veut parler technique. Elles font un peu plus d'une centaine de pages en moyenne, donc on a de quoi faire. La première, c'est le téléphone de Monsieur Harrigan. Un jeune garçon, Craig, se lie d'amitié avec un vieux monsieur très riche. Le vieil homme meurt et Craig glisse son portable dans son cercueil. Quelque temps plus tard, un peu triste, Craig appelle le téléphone. Il sait bien qu'il n'aura pas de réponse. Mais finalement, si. La deuxième, la vie de Chuck, c'est la vie d'un homme racontée à l'envers. Je peux vous dire qu'il faut le génie de King pour que ça se tienne. La troisième, si ça saigne, donc, c'est la suite de L'Outsider, un roman publié il y a 2 ans. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre le deuxième. Et la quatrième histoire, Ra, c'est un écrivain en mal d'inspiration qui fait un pacte avec un rat. Alors, Stephen n'était pas disponible en ce moment avec la crise sanitaire, tout ça. Il m'a appelé pour me dire « Écoute Nico, je suis désolé, je ne pourrais pas venir cette année. » Qu'à cela ne tienne, j'ai invité son éditrice en France, Anne-Michel. Bonjour Anne-Michel.
Bonjour.
Je plaisantais bien sûr, hein. Stephen King se fait très rare dans les médias. La dernière fois qu'il est venu, c'était en 2013 pour une conférence de presse. J'y étais, grand moment. Est-ce qu'on sait pourquoi il vient si peu? Il n'aime pas voyager, c'est quoi l'histoire?
Si peu, il n'est venu qu'une seule fois, hein. C'est sans doute la première et la dernière fois qu'il venait en Europe, enfin en France, pour présenter son œuvre qui à l'époque était Dr Sleep. Alors, pourquoi King ne vient pas? Il faudrait lui demander. Moi, ce que j'ai ressenti en le rencontrant, c'est que c'est un homme d'abord qui a traversé un très grave accident de voiture, comme vous le savez, qu'il raconte dans Écriture. Donc c'est un homme souffrant qui a beaucoup quand même, qui demandait à ce qu'on fasse des interviews et toutes les heures et demie à pouvoir s'arrêter pour pouvoir se reposer. Et puis surtout, je pense que c'est un homme qui a conscience que ce qui est le plus important, c'est son œuvre, que c'est écrire qui est le plus important. Et que donc il a décidé très consciemment, même s'il aime ses fans, même s'il aimerait les satisfaire, de se consacrer uniquement à l'écriture et pas à sa médiatisation. Mmh. Donc voilà, il préfère nous écrire que nous parler. Et bon, au fond, je crois qu'on peut le comprendre et que ça peut nous suffire.
Et c'est quel genre de bonhomme, quand vous l'avez donc suivi pendant ces quelques jours en France? Gentil, direct?
Oui, mais vraiment gentil, direct et surtout un homme très simple. On comprend aussi quand on le rencontre que c'est un homme qui a envie d'une vie simple et qu'il préfère être dans le Maine, aller pêcher avec son voisin plutôt que d'être sous le feu des caméras et au contact des médias. Voilà.
Quatre nouvelles histoires, donc des novellas. C'est courant chez Stephen King. En France, on est assez peu habitué à ce format. Et les éditeurs ont un peu peur du format court, même en recueil comme ça. Pourquoi?
Alors, les éditeurs ont effectivement, même si vous le savez, chez Albin Michel, non seulement on publie les nouvelles de Stephen King, bien évidemment, mais aussi beaucoup de nouvelles des États-Unis.
Voilà, mais toujours en provenance d'Amérique.
Il faudrait aussi demander aux lecteurs pourquoi finalement ils n'aiment pas tant que ça les nouvelles, puisque malgré tout, la triste constatation qu'on est obligé de faire, c'est que la nouvelle n'attire pas forcément beaucoup de lecteurs, alors qu'on voit bien en lisant ces quatre nouvelles de Stephen King à quel point ça peut être tout aussi gratifiant et tout aussi merveilleux que de lire un roman, parce que quand on a des grands novellistes en face de soi, l'émotion que cela vous procure est aussi forte que celle d'un roman.
Alors, c'est du pur King, encore. Il y a du fantastique, il y a du policier, il y a du roman social aussi, écologique même. C'est ça, King, c'est une variété de styles. Quand on parle de lui, on a tendance à le réduire au fantastique et à l'horreur. Mais c'est pas du tout, c'est pas que ça, Stephen King.
Non, et on voit bien, alors c'est pour ça que ce recueil, il est particulièrement réussi, c'est qu'on voit bien toute une gamme, l'éventail de la maestria de King, à la fois capable de nous faire préparer une fin du monde, d'être dans le vrai roman d'apprentissage qui est un de ses grands fortés avec l'histoire de ce petit garçon qui va s'occuper de ce vieil homme et communiquer avec lui de par la tombe. La panne d'inspiration d'un écrivain, aussi un des grands thèmes kingiens. Enfin, il y a vraiment toute la gamme des émotions kingiennes qui est quelqu'un qui, effectivement, non seulement nous dit à la fin de ce roman que pour lui, chaque être humain contient le monde entier, mais qui, d'une certaine manière, par son œuvre, réussit à contenir tous les genres littéraires du monde entier.
Bien vu. Et alors, on va en reparler tout à l'heure, mais quand il parle de la multitude et que quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, il y a le monde entier, il cite Walt Whitman, un des plus grands poètes américain, et il est bercé de littérature, King. Il a une vraie grande culture littéraire et poétique. Il s'en sert beaucoup dans ses romans. Il y a énormément de références sans que ce soit imposé, quoi. Que ça se voit trop, que ce soit clinquant. Mais oui. Sans arrêt, il y a des petites références poétiques, littéraires.
Absolument. King, je crois qu'il a une bibliothèque qui contient plus de 17 000 livres et qu'il dit qu'il a tout lu. On sait aussi, alors il y a cette extrême connaissance de la littérature qu'on voit bien, parce que dans la première nouvelle, Monsieur Harrington, on retrouve aussi beaucoup de références littéraires, puisque le petit garçon lit au vieil homme beaucoup de romans, donc on les voit déjà. Et puis aussi, même dans la figure de Monsieur Harrington, on peut retrouver aussi la figure de Scrooge de Dickens. Ensuite, il y a effectivement
Scrooge, le vieux monsieur, très riche,
qui déteste tout le monde.
Le conte de Noël de Charles Dickens.
Le conte de Noël de Charles Dickens, qu'on retrouve. Enfin, moi, la parenté, je la sens bien. On le retrouve aussi, bien évidemment, dans cette nouvelle de la vie de Chuck avec cette multitude. I contain multitude, qui est un vers de Whitman, qui va influencer terriblement le jeune Chuck. Et on le sent bien aussi à la fin du livre qui a influencé Stephen King. Donc, il y a toutes ces références. Mais je tiens aussi à dire que King est un homme qui lit énormément de nouveaux auteurs, qui défend ces nouveaux auteurs, qui, à chaque fois qu'il les aime, écrit
On appelle ça un blurb.
Un blurb.
Une petite citation pour dire ce livre est génial, Stephen King, qu'on met sur la couverture et on se bat pour avoir une petite citation de Stephen King.
Mais qui fait ça avec beaucoup de générosité et surtout d'enthousiasme, parce que c'est un homme qui, toujours, tout le temps, vit dans la littérature.
Alors, on en retrouve dans chaque de ses nouvelles, mais il y a la question du mal. Et toujours dans l'œuvre de King, il y a la question du mal. Qu'est-ce que le mal? Où est-ce qu'il se niche? Est-ce qu'on peut être entièrement mauvais? Est-ce qu'on peut être entièrement bon? C'est lancinant chez lui.
Voilà, et dans la fameuse nouvelle qui reprend un des personnages clés de l'Outsider, il y a toute cette question du mal intérieur ou du mal extérieur. Et je pense que King passe son temps à explorer ces deux dimensions. Je pense que s'il nous touche tant, c'est aussi parce qu'il nous révèle notre mal intérieur, quand chacun de nous, il y a cette part de mal, et qu'en même temps, il y a de temps en temps des grandes incarnations du mal extérieur, comme cet outsider, qui viennent symboliser le mal du monde qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas empêcher.
Restez avec nous, Anne-Michel, dans un instant, on part pour le Maine, le terrain de jeu, le bac à sable de Stephen King. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Anne-Michel, l'éditrice en France de Stephen King à l'occasion de la publication du dernier King que j'ai dans les mains, Si ça saigne, chez Albin Michel. Anne-Michel, dans la plupart des histoires de Stephen King, on est dans le Maine. Le Maine, c'est son état d'origine, c'est là où il a vécu, où il vit encore par intermittence, je crois. Hein. C'est quoi ? C'est son terrain de jeu, c'est son bac à sable, il se sent plus libre. Alors, il invente une sorte de Maine parallèle, hein, avec des villes comme Castle Rock, Flint City, un peu fictives comme ça.
Oui, alors, c'est effectivement son état d'enfance, enfin, et ensuite, le lieu où il a le plus vécu dans sa vie, hein, puisqu'il a une maison à Bangor, et dans une autre ville du Maine. Et donc, je pense que King, quand je vous disais, il aime rester chez lui et aller à la pêche avec son voisin, c'est aussi un homme qui aime ce territoire familier où il se sent chez lui, qui contient aussi la multitude de l'Amérique par tous les personnages qu'il y fait vivre, mais qui est effectivement l'état des États-Unis qu'il connaît le mieux.
Puis c'est un peu neutre, quoi, parce que y compris en Amérique, mais en Europe surtout, on ne connaît pas vraiment le Maine. Quoi. On voit bien un peu l'idée, on sait que c'est sur la côte Est. Il y a un côté un peu breton, quoi, si on veut.
Voilà, c'est un côté un peu breton,
mais on ne voit pas bien, quoi. Donc ça permet peut-être aussi de mieux plonger dans les histoires.
Et aussi un état de culture, où il y a beaucoup d'universités. Or, de même qu'il y a un personnage là qui est professeur de littérature et qui écrit à la fois... Il y a souvent chez Stephen King des personnages de professeurs. Les professeurs sont très très présents dans l'œuvre de King. Donc le Maine, c'est aussi un état culturel et un état où finalement les tensions raciales sont peu développées. C'est un état plutôt doux d'une certaine manière, le Maine.
Et donc on peut partir de là.
On peut partir de là pour imaginer beaucoup de choses, pour imaginer le pire.
Au début de sa carrière, il a souffert quand même d'un manque de considération des critiques, alors que c'est pas seulement un bon raconteur d'histoire, Stephen King, c'est un technicien littéraire. Je me rappelle du Bazar des mauvais rêves, un recueil de nouvelles que vous aviez édité. Chacune commençait par une petite note de Stephen King qui expliquait, alors celle-ci je vous la raconte dans le style d'Hemingway, pour telle et telle raison. Celle-ci dans le style de Carver, encore pour telle ou telle raison, parce que ça collera mieux à l'histoire. C'est un technicien littéraire aussi, King.
C'est un grand technicien littéraire qui a été reconnu tard dans sa vie comme étant pas seulement un écrivain de genre, mais un grand écrivain. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à l'éditer dans les années 2010. Et c'est quand même le moment où il publie 22-11-63 qui va être quand même le grand révélateur, même si bien évidemment des critiques, des fans comme vous, savaient depuis bien bien longtemps que Stephen King était un maître de l'écriture. Il a mis du temps à obtenir cette reconnaissance, mais je crois que désormais, c'est acquis et qu'on sait que Stephen King est celui qui, on le voit bien dans l'écriture, a le plus réfléchi, ciselé son écriture pour arriver au résultat que l'on sait.
Et puis, un virtuose du système narratif, là, on le voit encore dans la vie de Chuck, qui est dans ce nouveau recueil, si ça saigne. La vie de Chuck, c'est la vie d'un homme racontée à l'envers. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour le faire tenir, pour que ce soit cohérent, il faut une sacrée virtuosité littéraire.
Il faut une sacrée virtuosité littéraire, et il y a chez King... C'est incroyable. Enfin, c'est pour ça, je pense aussi, qu'il a su fidéliser et garder ses fans depuis si longtemps. C'est qu'effectivement, à chaque fois, il se renouvelle. Je pense que lui aussi ne veut pas s'ennuyer et qu'il veut à chaque fois se donner des défis littéraires quand il écrit.
Vous avez parlé d'écriture, qui est son livre à la fois autobiographique, mais dans lequel il donne aussi beaucoup de conseils littéraires à des jeunes écrivains. Il donne ses techniques, ses astuces. Il dit notamment « kill your ladies », c'est-à-dire « tuez vos jolies phrases que vous aviez trouvées si belles mais qui servent à rien dans votre récit, virez-les, enlevez-les ». Il donne plein de conseils comme ça sur comment appréhender un personnage, un plan, etc. Bon, bref, beaucoup d'écrivains, des jeunes surtout, me parlent d'écriture et me disent qu'ils ont lu écriture et qu'ils s'en sont inspirés dans leur, pour commencer à écrire. Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits, de primo-romanciers qui sont élevés par Stephen King ?
Alors, je pense effectivement, à titre personnel, que Écriture est un des plus beaux livres jamais écrits sur l'écriture. À la fois d'une simplicité incroyable et d'une profondeur incroyable dans les trucs qu'il donne aux jeunes écrivains. Après, moi, je m'occupe uniquement de littérature étrangère, donc je ne reçois pas les manuscrits des jeunes écrivains. Mais je sais, par exemple, qu'en ayant parlé avec Maxime Chattam, qui avait eu la chance d'être un de ceux qui sont venus au Grand Rex pour parler avec Stephen King, Maxime nous a dit à quel point toute sa carrière littéraire, enfin que vraiment le déclencheur de son désir d'écriture et son maître en écriture, c'est Stephen King. Mmh.
La plupart des histoires de King sont adaptées au cinéma ou en série. Depuis quasiment le début de sa carrière, depuis Carrie en fait, son premier roman. Pourquoi ? On a une explication à ça ? Ça colle ?
Alors, non seulement, bon, depuis le début de sa carrière, il y a toujours eu des adaptations, mais ces dernières années, ces adaptations se sont encore multipliées.
Et en plus, il y a des adaptations, des nouvelles adaptations de romans qui ont déjà été adaptés. Enfin,
voilà, et puis maintenant, avec les nouvelles plateformes qui fleurissent, que ça soit Netflix ou Amazon Prime, il y a une multiplication des adaptations. Bah, je pense que ça, on en revient toujours au centre, qui est que c'est quoi King ? C'est d'abord une bonne histoire. Mmh. C'est d'abord une bonne histoire, et que ce qui fait frémir les scénaristes, quels qu'ils soient, c'est cette bonne histoire.
Et une atmosphère.
Et une atmosphère. Donc,
la ligne verte, pense que la, voilà, la ligne verte, 22-11-63, les évadés, le fléau, tous.
Tous. Mais parce que finalement, la bonne histoire, qui paraît une notion très banale, elle n'est pas si courante. Et que l'extraordinaire puissance de King, c'est par rapport à d'autres, d'en écrire des centaines, avoir cette espèce de geyser d'idées qui est exceptionnelle. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui aient la puissance créatrice de King.
Et puis, il a été élevé par le cinéma aussi, le cinéma d'horreur en particulier.
Absolument.
Et puis, il est très exigeant d'ailleurs avec le cinéma Shining de Kubrick. Kubrick, quand même.
Qu'il a toujours détesté et renié.
Il déteste ce film. Mm. Ça, c'est peut-être aussi ce qui fait la qualité des adaptations. Restez avec nous, Anne-Michel, dans un instant, encore du King, ou plutôt du Richard Bachman. Mm. Mais c'est pareil, on va lire le livre culte et j'ai choisi Marche ou crève.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix est livre continue, il est l'heure du livre culte. Anne Michel, l'éditrice de Stephen King en France, publie « Si ça saigne » chez Albin Michel. J'ai donc choisi l'un de ses classiques de Stephen King, pas d'Anne Michel. Mais il en a tellement, alors j'ai choisi mon préféré. « Marche ou crève », c'est le titre de ce roman génial. Franchement, si vous avez un ado à la maison, que vous avez envie qu'il lise un livre en entier pour une fois, offrez-lui « Marche ou crève ». C'est complètement dingue. Il est signé Stephen King, donc, mais il est sorti en 79 sous le nom de Richard Bachman. King a écrit 7 livres sous ce nom. Il voulait sortir plus de livres et son éditeur américain refusait qu'il en sorte plus d'un par an. Alors il a changé de nom. En plus, il voulait voir s'il était capable d'avoir du succès sans inscrire Stephen King sur la couverture. Et troisièmement, les romans signés Bachman ont une couleur particulière. Ils sont un peu décalés par rapport à l'univers de King. Alors marche ou crève ? En anglais, le titre, c'est The Long Walk, la Grande Marche. La Grande Marche, c'est le nom d'un jeu national télévisé. Je précise que nous sommes aux États-Unis, mais dans une sorte de contexte dystopique, le contraire de l'utopie, une sorte de réalité parallèle, si vous voulez. Ce sont les États-Unis, mais dirigés par l'armée. La Grande Marche, c'est donc un jeu retransmis à la télé. Les jeunes de 16 ans peuvent candidater. 100 auront le droit de participer. L'idée est très simple. Il s'agit de marcher jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul debout. Le vainqueur, une course de fond en marchant, sauf que si vous vous arrêtez, ben vous êtes mort. Soit d'épuisement, soit par balle, un militaire vous tire dessus. Les candidats sont équipés de GPS qui calculent leur vitesse. Si vous descendez en dessous d'un certain seuil, vous entendez crier « Premier avertissement !» si vous ne reprenez pas la bonne vitesse quelques instants plus tard. Deuxième avertissement et enfin, troisième avertissement. Et si vous n'y arrivez toujours pas, un coup de feu est terminé. Les candidats sont des volontaires, ce sont des gamins qui rêvent de gloire parce que le gagnant est couvert d'or et d'honneur. Le roman s'ouvre sur l'arrivée du héros, l'un des gamins. Il s'appelle Garaty, sa mère l'accompagne. Il ne comprend pas trop pourquoi elle est si triste. Lui, il est persuadé qu'il va gagner, donc il n'est pas du tout inquiet. Il embrasse sa mère, il se met sur la ligne avec les autres. Départ, il fait un pas et puis il comprend d'un seul coup. Il comprend qu'il n'aurait jamais dû participer, mais c'est trop tard. Maintenant, c'est littéralement marche ou crève, on suit donc Garaty et les autres. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est que des amitiés se créent pendant la marche, des inimitiés aussi, bref, des relations sociales. Voici la première page lue par le marcheur de fond Philippe Dussault.
Une vieille Ford bleue se présenta ce matin-là au guichet du parking, l'air d'un petit chien fatigué après une longue course. Un des gardiens, un jeune homme sans expression portant uniforme kaki et ceinturon, demanda à avoir la carte d'identité en plastique bleu. Le garçon, assis à l'arrière, la donna à sa mère, qui la remit au gardien. Celui-ci l'emporta vers un terminal d'ordinateur qui avait l'air bizarre et déplacé dans ce cadre rural. Le terminal avala la carte et écrivit sur son écran « Garaty Raymond Davis, immatriculation 49 801 89. Le gardien appuya sur un bouton et tout disparut, laissant l'écran lisse, vert et vide. Il leur fit signe d'avancer. « Ils ne rendent pas la carte ?» demanda Mrs. Garrity. « Ils ne... Non, maman !» répondit patiemment Garrity. « Eh bien, je n'aime pas ça !» remarqua-t-elle en allant se garer dans un espace libre. Elle répétait cela depuis qu'ils étaient partis dans la nuit à 2 heures du matin, ou plutôt, elle le gémissait. « Ne te fais pas de soucis !» dit-il, sans même y prêter attention. Il était occupé à tout observer et absorbé par ses propres sentiments d'attente et de peur. Il descendit avant même que la voiture eût poussé son dernier soupir. C'était un grand garçon, bien charpenté, portant un blouson militaire fané contre la fraîcheur de ce petit matin de printemps. Sa mère aussi était grande, mais trop maigre. Ses seins étaient presque inexistants, 2 petits renflements. Ses yeux papillotés, incertains, vaguement inquiets. Elle avait une figure de malade. Ses cheveux gris fer s'étaient emmêlés sous la complexité des pinces qui auraient dû les maintenir en place. Sa robe violait mal, pendait un peu, comme si elle avait récemment beaucoup maigri.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
C'était la première page de Marche ou Crève, lue par Philippe Dussault. Anne Michel, vous êtes toujours avec nous, vous êtes l'éditrice de Stephen King en France. Comment fait-on avec ce pseudo Richard Bachman, donc il a signé ce roman sous ce nom-là? On le laisse sur la couverture, en général il y est en tout petit, avec Stephen King marqué en grand. Mais quand c'est signé Richard Bachman, ça dit aussi quelque chose du roman. On sait que ce sera un King différent. Qu'est-ce qu'on en fait de ce pseudo-là?
Je n'étais pas encore chez Albin Michel quand ils ont publié les premiers Richard Bachman, mais je sais qu'on les a publiés sous le nom de Richard Bachman pendant longtemps, jusqu'au moment où la supercherie a été découverte, puisqu'il a fallu quand même un certain temps. Il ne faut pas oublier que King a cherché à protéger son double pendant très longtemps, lui avait créé toute une biographie incroyable avec une femme à qui il dédicaçait ses livres. Bon, au moment où la supercherie était vantée, il faut penser aussi que King était prêt à signer Misery sous le nom de Richard Bachman. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour lui et on a toujours gardé les deux noms sur notre couverture.
Si ça se trouve, mais on ne sait pas, et vous non plus, j'imagine. Si ça se trouve, il a encore un ou deux pseudos et il les publie sans qu'on sache que c'est Stephen King. Et il en vend 400 et c'est du génie.
Peut-être, ça serait assez amusant de le découvrir. En tout cas, quand il était en France, il ne m'en a pas parlé. Et je sais aussi qu'il a maintenant, puisqu'au départ, Richard Bachman était aussi lié au fait que les éditeurs ne souhaitaient pas publier tous les livres de King. Maintenant, depuis bien, bien longtemps, cette question ne se pose plus. Oui. Et King nous envoie toujours au moins 2 manuscrits par an.
Il y a de la marge, en fait. Vous avez de l'avance, non?
On a un petit peu d'avance, ouais, mais pas tant que ça. Donc je vais publier une très belle novella en septembre et l'année prochaine, je vais publier ce qui, à mon avis, est un des plus grands King.
Vous êtes privilégié quand même.
Je suis privilégié, j'en ai parfaitement conscience.
Je rappelle le titre du dernier recueil, Si ça saigne, c'est chez Albin Michel. Tout de suite, on part rencontrer un grand amateur de polar aussi, Jacques Expert. On part visiter sa bibliothèque. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1,
La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Jacques Expert. Il a été journaliste, dirigeant de radio, de télé, M6 notamment. Et puis, il est devenu écrivain de polar, belle reconversion. Son dernier livre s'appelle « Plus fort qu'elle » chez Calman Levy. Allons-y. Bonjour Jacques Expert.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous dans une petite maison pas très loin de Paris. C'est charmant. Et alors, il y a des livres partout. Il y en a même à l'étage, je crois. On ira voir tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais dire que c'est très rare, mais vous classez vos livres par ordre alphabétique. Ça a l'air idiot, mais dans toutes les bibliothèques qu'on a visitées pour l'émission, vous êtes seulement le 2e. À classer vos livres.
Un grand maniaque. Et
classer par ordre alphabétique.
Un psychopathe.
Ah non, moi aussi, hein, entre nous, je le fais chez moi. Mais pourquoi, comment vous faites? C'est compliqué le classement par ordre alphabétique parce que quand il faut en rajouter un, parfois ça coince parce qu'on n'a plus de place.
Voilà, c'est ça. Là, donc on fait une double rangée en fait. J'ai la chance d'avoir une bibliothèque assez profonde qui fait que je peux mettre sur 2 rangs les livres. Effectivement, il faut pas qu'il y en ait beaucoup en plus, parce qu'on ne sait plus où les mettre. On les glisse au-dessus ou comme ça, comme on peut. Voilà. Mais c'est vrai, c'est le, je ne sais pas combien on a de livres à la maison, peut-être 2-3 000, est-ce que je sais. Alors, c'est le phénomène de l'accumulation.
Les livres sont sur la tranche, bien sûr, mais il y en a un qui est de face. C'est Philip Roth. Et pourquoi écrire, qui est un livre posthume, en fait, où il explique sa démarche d'écrivain. Est-ce que vous avez une admiration particulière pour Philip Roth?
Forcément, comme tout le monde, hein, c'est quand même un des grands auteurs. Malheureusement, il n'a pas été récompensé par le prix Nobel,
de littérature
qu'il aurait mérité.
Chaque année, on disait ça va être Philip Roth, ça va être Philip Roth.
Ouais, bah, vous savez, le prix Nobel, c'est parfois, il y a de grosses erreurs, et pas seulement en littérature.
Grand écrivain américain, vous nous le présentez un peu, vous nous dites pourquoi vous l'aimez, vous?
Parce que moi, déjà, j'ai un attachement très particulier à l'Amérique, aux grandes villes américaines. J'adore New York, j'adore Los Angeles, j'aime la Floride, par exemple. Ouais.
C'est un esprit.
Oui, c'est un esprit. Je trouve qu'il y a, on a plus qu'ici, plus qu'en Europe encore, l'impression que tout est possible aux États-Unis. Et ça, j'aime ce pays pour ça. Je suis allé des dizaines de fois, mais je suis allé très très souvent. Je connais peut-être plus de la moitié des États américains. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai un sentiment de liberté énorme quand je me balade. J'adore, autant en France par exemple, je déteste conduire. Là-bas, j'adore prendre les grandes autoroutes. On peut rouler pendant des heures, voir le même paysage, et ça ne m'ennuie pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'aime ça.
De liberté. Ouais. Peut-être aussi le mythe américain des grands livres aussi, des grands romans.
Et puis c'est vrai que moi, je suis un amateur de polar. Et en polar, je suis désolé pour les Français, les Scandinaves, les Islandais, en fait, tout ce qu'il peut y avoir en Europe d'auteurs de polar, et j'en fais partie. J'ai une passion pour les polars américains.
Vraiment, quand même, en Europe, on a Conan Doyle, on a Simenon.
Ah oui, non, bien sûr, Simenon, c'est pour moi l'un des meilleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands auteurs de polar en Europe. Hein. Clairement, il y a
de grandes tendances, quoi, vous voulez dire.
Mais j'aime j'aime chez les Américains, je suis rarement déçu, j'aime leur façon d'écrire. Je ne sais pas pourquoi, je balade dans la littérature de polar américaine avec un régal énorme, ce qui n'est pas toujours le cas dans la littérature européenne. J'ai jamais, je crois, été déçu par un. Par un polar américain.
Et comment on pourrait définir cette écriture si particulière et faire la moyenne des écrivains américains? C'est une sorte de sécheresse d'écriture, comme ça, d'aller tout de suite au but.
Oui, je trouve que ces romans sont efficaces. Et puis, ils sont très... c'est vraiment ce que j'aime, du moins dans ces polars américains que j'aime, ils sont vraiment très, très impliqués dans la nature américaine, dans la vie quotidienne américaine. Et c'est ça vraiment que j'apprécie. Après, moi aussi, dans mes romans, je suis très dans la vie quotidienne. C'est ce que j'aime, d'écrire les gens. Et je trouve qu'ils ont une façon extrêmement juste et très psychologique de décrire les individus. Et c'est ça vraiment que j'aime. C'est-à-dire que c'est... Chaque roman, pour moi, est une vraie plongée. C'est-à-dire, si on prend les Connolly, qui est vraiment le grand maître, et même si son dernier est relativement décevant au niveau de l'histoire, je trouve que sa façon de parler du quotidien des Américains, il n'y a pas mieux. Moi qui adore les États-Unis, par ces romans-là, je rentre dans leur vie, dans leur quotidien.
Si je peux me permettre, vous avez juste fait une petite erreur, pardon, hein, mais le grand maître, c'est Denis Lehane, hein, c'est pas Connolly. Shutter Island.
Bien sûr, non, tout à fait.
Mystic River, bon.
Pour moi, le plus grand thriller.
C'est qui pour vous le grand.
En tout cas, il y a un roman que j'adore, que je conseille, qu'il faut absolument acheter, c'est Au-delà du mal de Shane Stevens, qui est l'histoire, pour ceux qui aiment les histoires de serial killer comme moi, il n'y a pas mieux. Donc, je ne vais pas raconter l'histoire. Mais il faut retenir ce titre, Au-delà du mal. C'est l'histoire d'un serial killer qui est le fils d'un grand serial killer historique des États-Unis. Alors, il devient serial killer. Pourquoi le devient-il? Qui est-il? C'est tout avec un rebondissement de fin fabuleux. Et c'est pour moi le plus grand roman plus grand thriller que j'ai, américain que j'ai lu. C'est excellent.
Vous avez raison, souvent un bon polar, en fait, c'est pas tellement le pitch. On a toujours l'impression que c'est le pitch qui compte dans un polar, c'est surtout la manière.
Oui, je crois. Ouais, tout à fait. Je pense que ça, vous avez raison. C'est comment on rentre dans l'histoire. Un bon polar, il y a trois ingrédients pour moi dans un bon polar. Un bon début, c'est-à-dire quelque chose qui abatte. Une fin qui peut nous scotcher. Et une façon d'avancer dans le récit qui fait que quand on finit un chapitre, on a envie de se jeter dans le suivant, en espérant qu'il ne soit pas trop long, parce qu'il est déjà minuit et demi, une heure, et qu'on a envie de se coucher.
Vous nous rappelez le titre de votre...
Au-delà du mal, de Shane Stevens. Je le recommande à 100%, ou même à 110%.
C'est noté. Oh,
il faut fouiller. Oui.
Vous avez une vieille édition de La Conjuration des imbéciles. Ah non, c'est une fausse vieille édition, en fait. Ça a été refait. J'adore ce livre, ouais. John Kennedy Toole, La Conjuration des imbéciles, chez 10-18. C'est une histoire aussi d'édition incroyable.
Ouais.
Magnifique. Et ouais. Ah oui, alors il y a la citation de Jonathan Swift qui va avec, qui est toujours sur les exemplaires de La Conjuration des imbéciles. Je vous la lis. « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. »
Pas mal, non ?
C'est magnifique. Et je repose... Il y a des livres partout, hein, où qu'on aille, sur la table basse, dans la cuisine aussi. La cuisine, c'est des livres de cuisine plutôt, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire, là, c'est familial. Il y a une tradition chez nous de collectionner des livres de cuisine. Donc, je ne sais pas, on a peut-être 200, comme il y en a. Il y a tout un mur, le mur de cuisine.
Vous remarquez au passage le flair et la pertinence du journaliste. Livres de cuisine, bravo. Dans la cuisine. Alors, vous avez été bon élève.
Ouais.
Ça arrive parfois. Vous avez préparé aussi dans votre bureau, on y est là, trois livres dont vous vouliez absolument nous parler. Donc faites-vous plaisir, simplement 1984, on en a déjà beaucoup parlé. On a fait une spéciale il y a quelques semaines, mais je voudrais bien savoir pourquoi il est là.
Il est là parce que je ne l'avais jamais lu. Et je l'ai lu ces dernières semaines. Et véritablement, pour moi, ça a été un choc littéraire. Je ne pensais pas, je l'ai lu un peu par curiosité, comme ça en me disant, il faut quand même que je le lise, tout le monde en parle, avec les événements actuels, etc. La Chine, enfin, coronavirus, c'est ce que je sais. Je voulais le lire, et c'est un très grand livre, exceptionnel. J'étais vraiment scotché par la lecture de ce livre.
Donc vous rejoignez maintenant les gens qui ont un petit rictus quand vous entendez quelqu'un dire « ça c'est 1984 », ça c'est...
Non, ce n'est pas tellement ça, parce que je trouve qu'on n'en est pas là encore.
Mais on le dit un peu à tort et à travers, ça, aujourd'hui.
Oui, je pense que ça, c'est pas du tout ça. C'est simplement, ce qui me plaît là-dedans, c'est quand même le côté prémonitoire qu'Orwell a eu quand il a écrit ce livre-là. Il décrit certaines sociétés. À certains moments, ça me fait quand même penser à la société chinoise, je dirais, ce livre-là. Après, quand j'entends dire « c'est fini, les libertés individuelles sont finies, la 5G et tout ça », pour moi, c'est des bêtises. C'est n'importe quoi. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à ça. C'est simplement, je trouve que c'est, au niveau littéraire, un très grand livre, au-delà du fait que c'est un livre qui a été écrit dans les années 50, qui prévoyait un futur qui est à certains endroits dont on n'est pas loin. C'est vrai.
Écrit en 48, d'ailleurs. Ah oui, il a inversé l'année pour choisir 84.
Ah, voilà, d'accord. Je ne savais même pas. Voyez, j'ai appris quelque chose. Bravo, super.
Vous avez un de mes livres préférés aussi, c'est Le bûcher des vanités de Tom Wolfe.
Alors ça, c'est... quand on me demande de citer un livre, c'est celui que je cite en priorité.
Alors, faut nous dire qui est Tom Wolfe et ensuite le bûcher.
Alors, Tom Wolfe, c'est un grand auteur new-yorkais. Et ça, c'est son...
Dandy reconnaissable,
ses
costumes blancs et son chapeau,
etc., qui est mort il y a quelques années, qui est décédé il y a quelques années. Ce livre, il date, je crois, des années 80. Et c'est l'histoire d'un homme qui provoque un accident, qui écrase un noir dans Harlem de mémoire ou dans le Queens enfin, et qui est broyé par le système médiatique.
Lui-même est un homme puissant.
Et lui-même est un blanc. Homme puissant, etc. Et blanc. Voilà, exactement. Et ce qui me... Alors là, je fais un petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec les... Comment on peut être broyé aujourd'hui par les réseaux sociaux. Moi, j'ai une aversion totale sur l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je déteste ça. Les réseaux sociaux, c'est un lieu de liberté, etc. Après tout, si on assume ce qu'on y dit et que ça reste dans les limites de la loi, pourquoi pas ? En revanche, et on, je crois qu'on est en train de réfléchir à une loi qui punirait l'anonymat, j'y suis pour à 100%. C'est le lieu. Pour moi, les réseaux sociaux sont les lieux de toutes les lâchetés. Et ça, je déteste ça. Je déteste lâcheté. Je déteste les images quand on voyait ces femmes qui, en 45, étaient conduites, étaient poussées par des foules en furie et qui étaient tondues en public. Je déteste ces images-là. Ça me révolte. Ça me révolte. Et de voir que des gens puissent être poursuivis anonymement par des réseaux sociaux où on peut tout dire, où on est presque impuni, ça me révolte.
On va terminer avec un autre livre que vous nous aviez préparé, qui n'est pas un polar. Mais c'est intéressant pour ça, justement. C'est chez Plon, ça s'appelle « Le bûcher des innocents
ouais. »
de Laurence Lacour, qui était consoeur d'Europe 1.
Ancienne, oui.
Qui n'est plus à Europe 1 aujourd'hui, mais qui avait couvert l'affaire du petit Grégory. Et ce livre-là, c'est l'affaire Villemain. Pourquoi vous avez choisi ce livre ?
Bah, parce que j'ai démarré en France Inter en 84, et l'affaire Villemain, l'affaire Grégory, date de 84. Donc j'étais aussi jeune journaliste, je rentrais des Antilles. Comme on le disait tout à l'heure, j'étais commentateur de football à la radio. Et je suis rentré un peu par chance, par hasard, à France Inter. Et un peu par hasard, parce que celui qui était dans l'Est, le correspondant dans l'Est, avait dit « Moi, je ne m'occupe pas des petites affaires », avait décidé de ne pas y aller. Donc on a envoyé le jeune journaliste partir tout de suite là-bas. Et c'est une affaire, évidemment, qui a marqué ma vie, qui a lancé ma carrière. Et le livre de Laurence est une somme à la fois sûre, qui résume ce qui s'est passé et qui surtout, et c'est ça qui est intéressant, parle de du poids médiatique. Je pense que c'est une des premières affaires où le journalisme, où les journalistes ont été vraiment partie prenante du quotidien de cette affaire judiciaire.
Qui sont restés plusieurs mois là-bas, des hôtels et tout ça. Quoi.
Il y a eu des abus.
Des journalistes là-bas aussi, quoi.
On vivait là-bas. Moi, j'ai passé des semaines là-bas sans rentrer sur Paris. Mais il y a surtout eu dans cette affaire des abus journalistiques. J'ai suivi beaucoup d'affaires criminelles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon expérience, je la mets aussi au service des romans que je peux faire aujourd'hui. Mais c'est la seule fois où j'ai assisté à une vraie collusion entre un journaliste, un policier et un avocat pour faire aller l'affaire dans le sens qu'ils voulaient, c'est-à-dire faire tomber Christine Villemain. Donc ils ont, de façon presque objective, décidé que cette femme était coupable et ont tout fait pour la faire tomber. Ça a été pour moi un travers, le principal travers de cette affaire, parce que dans les affaires criminelles, même aujourd'hui, on dit tout, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'un qui est coupable et on va réunir des journalistes pour dire « Oui, il a fait ci et ça », et puis le lendemain, il se trouve qu'il est innocent, et on trouve un autre coupable et ça repart pour un tour. Là, c'est différent. Il y a eu un vrai acharnement voulu, sournois, pour s'acharner sur une femme qui était innocente.
Comment on peut se passionner pour les polars fictifs quand on a vécu de très près des affaires comme ça? Est-ce que ça ne manque pas, du coup, de réalisme, d'authenticité?
Je pense que, si vous voulez, votre question est assez pertinente, et j'avoue, je ne me la suis jamais posée. Et je pense que c'est deux choses différentes. On peut à la fois être passionné. Enfin, l'affaire Daval qui nous occupe en ce moment est assez passionnante sur la personnalité de l'accusé, ce qu'il a fait. Là aussi, la personnalité des parents de la jeune femme qui a été tuée. L'image de voir ses parents consolant l'assassin de leur fils sans savoir qu'il est assassin est une image aussi qu'on n'oublie pas. Donc il y a des éléments visuels qui dépassent presque un polar. Donc on peut se passionner pour ça et être passionné par l'écriture du livre dont je parlais tout à l'heure, au-delà du mal. Quoi.
C'est l'écriture qui fait la différence.
C'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'il y a une dimension littéraire. Ce que j'aime aussi dans les polars, c'est que c'est les polars littéraires. Il y a chez Sonatine un auteur qui s'appelle David Joy, qui est un auteur exceptionnel, qui raconte l'Amérique profonde, très noir, presque le monde vous tombe dessus. Et il ne se passe pas énormément de choses. Et pourtant, on ne perd pas une ligne. C'est un plaisir sur les 400 ou 500 pages de son livre. C'est un plaisir permanent de lecture. C'est aussi ça, malgré tout, la littérature. La littérature, c'est quand on aime un livre, c'est quand on a envie d'y retourner. On n'a pas fini, mais on se dit vivement que j'ai travaillé, que j'ai fini ma journée pour retourner à ma lecture. C'est ça, un bon livre. Et ça arrive rarement. C'est rare comme plaisir. Il y a des livres qui vous plaisent, hein. Mais le livre, on se dit, vivement que je le retrouve, c'est quand même...
C'est merveilleux.
Je pense qu'il y a difficilement de plus grand plaisir que celui-là. C'est-à-dire, j'ai envie d'y retourner vivement que je sois tout seul pour me plonger dans mon livre.
Merci beaucoup, Jacques Expert.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
À bientôt. Et...
Europe 1.
De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier roman de Jacques Expert, Plus fort qu'elle, c'est chez Calman Levy. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre. Il est l'heure de rendre visite à un libraire. Direction La Tanière de Stanislas Rigaud. Librairie Lamartine à Paris 16e. Très chic. Bonjour Stanislas.
Bonjour Nicolas.
Ça va ?
Ça va très bien. Oui, le mois de janvier a été un très bon mois en librairie, en tout cas chez nous, j'espère pour tout le monde. Et le mois de février démarre aussi très très fort.
C'est chouette, ça continue quand même. Les librairies sont bien bien installées encore. Alors, deux coups de cœur aujourd'hui, et on commence par un habitué chez vous. Hein. Vous êtes un fan, c'est tout.
Voilà, je suis un fan, David Grann, aux éditions du Sous-Sol. David Grann, c'est ce grand romancier américain, journaliste du New Yorker. C'est lui qui a écrit, et ça tombe fort à propos, le fameux Lost City of Z qui repassait à la télévision il y a 15 jours et qui avait permis à James Gray de réaliser son meilleur film, par doute. Et il revient avec The White Darkness, donc toujours aux éditions du Sous-Sol. Et une fois encore, ce livre qui est donc de ce qu'on appelle la non-fiction, hein, donc ce n'est pas un roman, c'est le portrait d'un aventurier, d'aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'un ex-soldat des forces spéciales britanniques qui, fasciné et par l'Antarctique et par les expéditions du début du siècle, décide de repartir sur les traces de ces aventuriers aujourd'hui. Ça se passe à la fin des années 2000. Voilà. On commence comme ça. C'est un portrait magnifique. Alors, on perd beaucoup à en parler à la radio parce qu'en fait, le livre est très, très beau. Il y a des photos, une mise en page, une qualité de papier qui, comme d'habitude, avec les éditions du Sous-Sol, en font un très bel objet. L'histoire est fascinante puisqu'en fait, on va suivre et les aventures de cet homme et forcément les autres histoires du début du siècle en parallèle sur cette fascination du grand blanc. Autant vous dire qu'on relativise beaucoup la vague de froid qui s'abat sur la France quand vous êtes plongé dans The White Darkness, hein, parce qu'on parle de moins 40, moins 50. Voilà. La couverture est absolument géniale, avec cette tête un petit peu édentée. Pour la petite histoire, donc c'est en se pétant une dent, en mangeant une barre de vitamines congelées, qu'il obtient cette figure de pirate.
Ah, faut décrire, là, parce qu'il a des lunettes rondes, très très étranges, un peu extraterrestres.
Un bonnet, un gros cigare à moitié éteint, et il a cette tête conquérante, et il a l'air quand même foncièrement heureux, ce monsieur. Et voilà, c'est un peu petit bijou à lire et relire.
On dit non-fiction, c'est un récit, certes, mais c'est non-fiction à l'américaine, c'est-à-dire ça se lit comme un roman.
Ah, totalement. Vraiment, c'est ce qui fait la force, effectivement, de l'auteur, hein, David Grann. C'est, vous commencez, vous terminez, ça se lit d'une traite, il y a un vrai suspense. Est-ce qu'il va y arriver? Comment il va y arriver? C'est remarquable.
C'est bizarre qu'ils aient pas traduit le titre The White Darkness. On précise que c'est écrit en français dedans.
Alors, c'est écrit en français, c'est une vraie question, mais quand on va évoquer ce fameux White Darkness, c'est-à-dire cette obscurité blanche qui revient dans le livre, bien évidemment, la question se pose vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu mystère, un peu Conrad avec le White Darkness en anglais qu'on n'a peut-être pas si on avait eu le titre en traduit, en fait.
C'est toujours des belles questions, ça. Alors, The White Darkness, aux éditions du Sous-Sol, les superbes éditions du Sous-Sol, comme toujours, de David Grann. Le deuxième.
Alors, immense coup de cœur, le grand retour de Eddie Cadour avec La Nuit des Orateurs aux éditions Gallimard. Alors, bon, il faut lire Eddie Cadour, hein, là, la question ne se pose pas. Il avait écrit Waltenberg, Goncourt du premier roman, qui était un fantastique roman, une traversée du XXe siècle éblouissante. Il avait écrit ce fantastique Les Prépondérants, qui revenait, qui avait eu le prix de l'Académie française il y a quelques années, et qui revenait sur une espèce de roman de décolonisation qui était remarquable, brillant et drôle. Il revient avec La Nuit des Orateurs. Cette fois-ci, on prend la direction de Rome. Premier siècle, on est sous Domitien, et c'est l'histoire de Tacite. Tacite qui vient de remporter avec son ami Pline le Jeune et un autre de ses collègues un procès important contre un favori de l'empereur qui exploitait, surexploitait, martyrisait une province de l'Empire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait, ça a peut-être mis l'empereur de très mauvaise humeur, et forcément, les empereurs romains, en général, il vaut mieux éviter de les mettre de très mauvaise humeur. Et ça commence donc ce soir, le soir tombe sur Rome, et la femme de Tacite, qui connaît Domitien depuis des années, des années, des années, décide d'aller voir l'empereur pour voir si vraiment son mari risque la mort, Et si c'était le cas, si elle pouvait effectivement essayer de repousser les chances. C'est brillantissime. Grand, grand roman qui évoque, enfin, grand roman sur le pouvoir. Moi, à l'époque, je ne la connaissais pas du tout. Premier siècle, Empire romain, Domitien. Voilà, on plonge là-dedans avec une puissance d'écriture, comme d'habitude avec Edith Cadour, mais c'est vrai qu'on avait eu plus l'habitude de ces romans contemporains. Grand roman sur le pouvoir, sur le destin des hommes, sur les lettres. C'est un magnifique hommage au latin aussi. Et tout ça en fait un des très grands romans de cette rentrée littéraire. Il faut impérativement lire La Nuit des orateurs.
Parfait. Domitien, connu comme le mauvais empereur, ça marche toujours bien, les méchants.
Et il est très méchant. Hein. Mais.
La Nuit des orateurs chez Gallimard et David Gran, The White Darkness, aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup, Stan.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et puis vous avez fait l'effort aujourd'hui.
Bah bien sûr, il fallait.
Bon, c'était un petit effort pour vous quand même.
Bah oui,
vous nous parlez de Stephen King, mais en version Albin Michel jeunesse.
Ouais, on en discutera, il y a tout un débat autour de ça.
Le Molosse surgit du soleil.
Oui, c'est en fait une nouvelle extraite du recueil Minuit 4 paru en 1990. L'histoire se passe à Castle Rock, une de ces villes sorties tout droit de l'imaginaire de Stephen King.
Dans le Maine, on en parlait tout à l'heure.
Exactement, le jeune Kevin Delevan, 15 ans, reçoit pour son anniversaire l'appareil photo de ses rêves. Sauf qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce résultat. Il s'aperçoit en fait que l'appareil en question, un modèle du Soleil 660, ne prend pas les photos qu'il voudrait, mais reproduit toujours la même image, celle d'un chien terrifiant qui se rapproche de plus en plus. C'est très bien décrit, il décide d'aller faire examiner son nouveau cadeau chez un brocanteur. Ce dernier va saisir un peu de cette opportunité en roublard qu'il est pour revendre l'appareil à un riche passionné d'occultisme et le remplace par un autre modèle. Kevin, lui, s'empresse de le détruire, comprend très bien que c'est plus le même. Sauf que l'appareil va vite devenir incontrôlable, je ne vous en dis pas plus.
Bon alors, il y a la question de l'âge, toujours avec vous Victor, mais bon, est-ce que c'est une vraie question, ça je sais pas.
Bah, c'est une question, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'Albin Michel Jeunesse a décidé de séparer, ou en tout cas d'extraire dans ses recueils de nouvelles, certaines pour justement les faire lire aux ados à partir de 13 ans. Ils ont donc découpé plusieurs de ces recueils, il y en a un ici, donc le Mollusque surgit du soleil, 350 pages. Ils en ont déjà publié 4, Brume, Le Corps, La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, et donc celui dont on parle, Le Molosse surgit du soleil. Dans les prochains mois, la maison d'édition va en publier 11 autres. En tout cas, le maître de l'horreur propose ici un roman dans lequel vraiment fantastique et réalisme sont parfaitement dosés. Il y a tout un travail sur l'image vraiment très intéressant. La photographie, forcément, les personnages qui s'identifient aux clichés, un jeu de miroir, bref, encore du très très bon Stephen King. Et accessible aux adolescents. Bref, sans mauvais jeu de mots, vous allez le dévorer.
Le Molosse surgit du soleil aux éditions Albin Michel Jeunesse. Anne Michel, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes l'éditrice en France de Stephen King chez Albin Michel. Victor a cité Brume ou Le Corps ou La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, qui sont des histoires qu'on retrouve aussi dans les recueils version adulte. Il y a deux niveaux de lecture en fait chez Stephen King, c'est ça la réponse?
Oui, bah, de même, on le disait dans Si ça saigne, le téléphone de Monsieur Harrigan, c'est un petit garçon qui va découvrir la vie. Le thème de l'adolescent ou l'enfant qui découvre le monde et qui donc peut effectivement être lu par des adolescents, c'est un des thèmes majeurs de l'œuvre de King. Et ça faisait bien longtemps qu'on réfléchissait à cette idée de proposer des textes de King pour les adolescents, parce qu'on pense que non seulement ils peuvent y trouver beaucoup de clés pour justement traverser ces périodes compliquées que sont l'adolescence, mais en plus, on pense aussi que c'est des moments où on peut créer des vrais fans de King qui resteront toute leur vie fans de King. Donc, on a mis longtemps à élaborer ce projet et on voulait vraiment bien, bien choisir chacun des textes. Voilà, je suis très heureuse de voir que vous vous appréciez ce qu'on a réussi à créer.
Merci beaucoup Anne-Michel. Stephen King, Si ça saigne, c'est le nouveau recueil d'histoires géniales de Stephen King chez Albin Michel. Merci beaucoup Anne-Michel.
Et merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme au doigt de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.